ton et la tendance catastrophiste, qui ne recouvre d'ailleurs pas exactement la vieille opposition du réformisme et de la révolution. La première tendance, c'est celle qui encourage, qui pousse au développement du capitalisme, qui fait alliance avec un certain nombre de tendances du capitalisme, puisque c'est la condition d'avancer plus vite au communisme, c'est l'idée qu'il faut accélérer même le processus, donc soutenir, passer alliance avec un certain nombre de tendances du capitalisme, et la tendance catastrophiste de l'autre côté, qui consiste à avoir tous les quatre matins la crise définitive, et donc l'urgence qu'il y a à se préparer, à fourbir ses armes pour l'insurrection qui ne manquera pas de survenir bientôt. Quiétisme, insurrection, les différents courants marxistes politiques se sont souvent partagés entre les deux. Ce progressisme de Marx, on l'a vu se développer dans le léninisme, bien entendu, et en particulier dans ce texte que nous connaissons bien, que nous avons tous lu, pratiqué, ce texte de 1913, les trois sources du marxisme et les trois parties constitutives du marxisme. Vous savez, c'est ce texte dans lequel Lénine explique que la doctrine de Marx est toute puissante parce qu'elle est vraie. Qu'est-ce qu'il y a de vrai pour Lénine dans la théorie de Marx? Eh bien, très précisément, cette idée que Lénine formule de façon extrêmement précise, forge en quelque sorte dans le marbre du dogmatisme, c'est la suivante. Le capitalisme a vaincu dans le monde entier, mais cette victoire n'est que le prélude de la victoire du travail sur le capital. Vous vous lamentez de l'expansion du capitalisme, des ravages sociaux, vous ne cessez de déplorer la financiarisation, la marchandisation générale de l'existence, l'écrasement des prolétaires, l'intensification du travail. Toutes ces victoires du capitalisme, au fond, ne sont que des préparations, ne font que hâter, au fond, la victoire du travail sur le capital. Qu'est-ce que cela, sinon une croyance de nature religieuse, une croyance qui console peut-être, et qui sans doute illusionne. Et Marx et Lénine, toujours de dire que Marx, à partir de cette idée, s'est arrangé pour découvrir, comme il le dit, pour découvrir la force sociale qui doit inéluctablement faire la révolution selon les lois du développement du capitalisme. Bien. Alors c'est bien ceci qui fait problème, ce n'est pas ce que je dis là n'est certainement pas nouveau, je pense qu'il y a eu depuis 40 ans, 50 ans, régulièrement des critiques de ça. Je crois que on pourrait revenir à certains écrits de Walter Benjamin, évidemment, sur le concept d'histoire. On pourrait également relire avec intérêt des textes de Cornelius Castoriadis sur la théorie marxiste, dans lequel il explique très précisément comment, au fond, les fossoyeurs de la révolution sont en quelque sorte considérés non pas comme d'authentiques sujets politiques, mais au fond comme des espèces d'objets sociaux participant d'un mouvement qui les dépasse de loin. Donc c'est, semble-t-il, ce nuage très spécial qui n'enlève rien, encore une fois, à l'exigence de Marx, de l'analyse rigoureuse du capitalisme et de prendre appui sur les formes de lutte à chaque époque pour penser la lutte et la révolution, mais qui précisément pose problème et rend aujourd'hui, semble-t-il, impossible la pure et simple reprise du marxisme et sa réédition, y compris sa révision quand cette révision ressemble trop à une répétition. Alors, quoi d'autre? Eh bien, il s'agirait au fond pour définir une politique d'émancipation réelle, réellement athée, de se débarrasser, comme disait Foucault, de se débarrasser du marxisme, de refuser toute idée de nécessité historique de passage au communisme, de refuser toute désignation d'un agent historique depuis cette supposée nécessité de l'histoire d'assumer le caractère performatif, constructiviste du projet communiste. Aucune tendance objective, donc, ne montre la nécessité ou l'inéluctabilité du passage à ce que nous appelons communisme, ni sur le plan économique, technologique, culturel ou social. Au fond, seules les formes de l'action collective, les luttes, les pensées, les créations, les inventions, compris sur le plan des liens sociaux, inventions non déterminées par la technologie ou l'économie, sont susceptibles de fournir un certain nombre d'indications sur les formes que peuvent prendre l'anticapitalisme et les voies de sortie du capitalisme. En gros, le capitalisme ne crée pas ses propres fossoyeurs, tout au moins, il ne les détermine pas comme Marx avait pensé qu'il le fait. Le capitalisme crée aussi des formes d'assujettissement, des êtres soumis qui ne sont pas nécessairement ceux qui sont la force messie capable de passer à ce communisme prédéterminé. Donc le fond de l'affaire, je terminerai là-dessus, le fond de l'affaire est une croyance. Une croyance dans une certaine conception du progrès, qui renvoie à une certaine idée de l'histoire et une certaine idée du temps. Benjamin avait une phrase qui est, semble-t-il, remarquable et qu'il faudrait reprendre dans notre réflexion aujourd'hui sur ce que nous pouvons faire du marxisme et de Marx, c'est-à-dire le nouage qu'il a opéré. Benjamin écrivait dans cet écrit fondamental sur le concept d'histoire, « Rien n'a plus corrompu le mouvement ouvrier allemand que la conviction de nager dans le sens du courant. » Dans le sens du courant. « À ce courant qu'il croyait suivre, la pente était, selon lui, donnée par le développement de la technique. » Et Benjamin veut dire que ceci renvoyait à la vieille éthique protestante du travail sous une forme sécularisée qui ne peut envisager que les progrès de la maîtrise sur la nature et jamais les régressions de la société qui rendaient précisément très problématiques les voies de l'émancipation. Mais faudrait-il aussi évoquer Foucault dans les mots et les choses, et ses remarques bien connues sur le fait que le marxisme nageait au XIXe siècle comme poisson dans l'eau. Alors, au fond, pour introduire le débat, je dirais que la question, un peu comme Foucault le faisait plus tard, après les mots et les choses, dans un texte de 78, disait au fond il faut se débarrasser du marxisme pour libérer l'imagination politique. Libérer l'imagination politique, c'est se débarrasser du marxisme. Non plus donc répéter, même sous une forme plus ou moins reconnaissable, l'opération consistant à réintroduire la nécessité, l'agent et l'issue. Se débarrasser de la prétention de réviser le marxisme. Reprendre par contre l'exigence de Marx en considérant cette exigence justement comme un fait dans l'histoire, comme un événement qui a eu lieu, et cet événement qui est cette exigence, par contre, elle est actuelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut se débarrasser du communisme, bien au contraire. Mais ce communisme, cette perspective de l'après-capitalisme, ce que nous appelons l'après-capitalisme, ce que nous appelons l'après-capitalisme dans tous les sens du mot appelé, n'a pas besoin d'un grand récit fondé sur une loi de l'histoire, n'a pas besoin d'un rafraîchissement du grand récit trop fatigué. Le communisme n'est pas une nécessité. Je dirais qu'il n'est pas plus une nécessité au fond que la survie de l'humanité. Il dépend de nous. Il dépend de l'action politique. Il dépend d'une construction collective. C'est, si l'on veut, non pas une nécessité inscrite dans les lois de l'histoire, mais, au fond, une création, voire une fiction performative. En somme, contre ce progressisme de Marx, contre ce marxisme de Marx, c'est l'idée qu'il y a un programme devant nous, un programme collectif, qui est ce que nous appelons une politique athée. Une politique d'émancipation athée, précisément, qui se débarrasse de la croyance,